Bonsoir à tous et bienvenue à la station T. Vous rappelez-vous de ces chaînes d'email de fin des années 90 où, si vous ne renvoyez pas le mail à au moins 10 autres personnes, quelque chose de terrible allait vous arriver? Eh bien, dans ce 20e épisode, nous allons voir que participer à la prolifération de ces histoires a peut-être eu plus de conséquences que vous pourriez le croire. Si vous voyez un homme avec un bloc-notes rouge, vous devez lire ceci, c'est une question de vie ou de mort. Une histoire de Bound Beach. Je ne connais pas son nom, je ne sais pas où il vit et je ne sais certainement pas comment le trouver. Tout ce que je sais, c'est qu'il est dangereux et qu'il est en mouvement. Je suis un employé du gouvernement. Je travaille dans un laboratoire de recherche qui développe des armes expérimentales, principalement de type biologique. Je ne veux pas en dire plus car je risque déjà de dévoiler mon identité, mais je dirais que je ne suis pas vraiment un stagiaire. J'ai vu des choses. J'ai étudié des choses et j'ai créé des choses. Je l'ai créé. Ou pour mieux dire, je l'ai recréé. Vous êtes confus? Je ne vous en veux pas. Si vous écoutez ceci, alors vous êtes sûrement conscient du concept de légende et de mythologie. Des choses qui se nourrissent de notre imagination collective pour devenir plus puissantes. Qui vivent sur nos langues lorsque nous prononçons leurs noms et racontons leurs histoires. Grandissant et évoluant jusqu'à ce qu'elles deviennent une force à part entière. Inarrêtable. Inoubliable. L'homme avec le bloc-notes rouge est l'un d'entre eux. Je ne suis pas sûr, mais je pense que sa légende a commencé dans une chaîne d'emails de la fin des années 90. Vous connaissez le genre. Faire suivre ce message à 20 personnes dans l'heure qui suit, ou un tueur fou va vous découper en morceaux avec une hache. Sauf que la sienne s'est déroulée un peu différemment. Dans la sienne, le tueur trouvait ses victimes et les dessinait. Parfois il est dessiné en train de se noyer, d'autres fois il est dessiné en train de dépérir dans un lit d'hôpital, et d'autres fois encore, il est dessiné en train de se faire ouvrir et déchiqueter. Il y avait donc plusieurs versions du mythe, mais tout avait une chose en commun. Il vous dessinait, et vous mourriez. Le truc à propos de cet homme, c'est que ses croquis étaient minutieux. Il ne suffisait pas de faire une figurine appelée Sally et de la faire empaler sur un poteau. Non, dans ses croquis, Sally était une œuvre d'art détaillée, avec des ombres précises et des lignes parfaites. Il y avait bien sûr des exceptions à la règle, les rides, le maquillage, les cheveux longs, les cheveux courts, des choses qui changent naturellement au cours d'une vie. Il n'était pas nécessaire qu'elles soient exactes. Tant que l'essentiel de l'individu était exposé, sa magie cauchemardesque opérait. De ce fait, ses croquis prenaient des heures, parfois, ils prenaient même des jours. Ce n'est qu'une fois qu'il avait terminé ses croquis qu'il les signait de ses initiales désordonnées que la sentence de mort était déclenchée. Quand j'ai reçu la mission, j'ai rigolé. Donner vie à une légende? Je me souviens avoir dit à ma patronne. Vous savez que le poisson d'avril, c'était il y a 6 mois, non? Mais elle ne riait pas. Je me souviens de la façon dont elle a pris une profonde inspiration, a redressé son chemisier et s'est assise sur la chaise en face de moi. Je me souviens du plissement de ses doigts, du tic nerveux au coin de sa bouche, et de l'odeur du café bon marché qui fumait doucement sur la table entre nous. La peur, avait-elle dit prudemment. C'est une arme plus puissante que les balles et les bombes. Nous en avons besoin en ce moment. C'était il y a 6 ans. J'ai grandi depuis, mentalement et physiquement. L'homme aussi a grandi. Il a commencé sa vie dans une éprouvette, sans forme et sans défense. Et très vite, il a commencé à marcher, à parler, et peu après, il a commencé à tuer. Au début, c'était des prisonniers, des gens qu'on avait sortis des sites noirs. On les asseyait tous les deux dans un laboratoire qu'on appelait la salle rouge. Le prisonnier enchaîné et l'homme derrière une cloison en plexiglas. Il les dessinait et il mourait. Parfois, il prenait feu, d'autres fois, il faisait de l'urticaire, se grattait la peau et s'écorchait vif. Mais à chaque fois, il mourait. Inutile de dire qu'on ne lui permettait pas de prendre des notes quand les expériences n'étaient pas en cours. Dans l'intervalle, il s'asseyait seul dans sa petite cellule, recroquevillé dans un coin à la tête basse. Je suppose que je ne pouvais pas lui en vouloir avec seulement un mince matelas, une cuvette pour déféquer, uriner et 2 repas par jour. Il n'avait pas grand-chose d'autre à faire. Nous gardions 2 caméras pointées sur lui à l'avant de la pièce, juste au cas où pour le surveiller à tout moment. Nous avons même fait en sorte de créer un système de cycle pour les gardes, au cas où lui réussirait à en amadouer un. Grâce à un travail génétique astucieux de la part de mon équipe scientifique, il avait rarement besoin de se doucher, donc il était pratiquement toujours sous clé. Ce que je veux dire, c'est que nous avions pris des mesures de précaution. On avait couvert nos arrières. Mais malgré ça, il s'est échappé. J'ai reçu l'appel la semaine dernière quand ma patronne a annoncé la nouvelle. Au début, j'ai dit que c'était des conneries. C'était pas possible. Personne n'avait réussi à s'échapper du centre. Je me souviens du jour de son ouverture, quand j'avais encore des étoiles et des rayures dans les yeux et des rêves d'aider mon pays à vaincre les méchants. Je me souviens de l'entrepreneur qui avait supervisé la construction, un homme rond et poilu à la laine de saucisse à l'ail et aux doigts assortis. Il avait qualifié l'installation d'ultra-moderne et se vantait fièrement que Sherlock Holmes lui-même ne pourrait pas s'échapper d'ici. Et pourtant, l'homme s'était enfui. Non seulement il s'était enfui, mais il avait laissé un bain de sang dans son sillage. En tout, il y avait plus de 10 membres de la sécurité morts. Un des gardes a été retrouvé à l'extérieur de la cellule de l'homme, le crâne ouvert et la matière cérébrale suintant doucement de la fracture. Un autre a été trouvé dans la salle de contrôle des caméras. Une bouteille de produit a débouché les canalisations vides à son côté et du vomi recouvrant sa poitrine. Un autre était un de mes amis personnels et le chef de la garde de nuit. Et il a été trouvé avachi sur la femme qui s'occupait de la réception. Une balle dans leurs deux cerveaux. C'était horrifiant et mystifiant à la fois. Comment cela avait-il pu arriver? La cellule de l'homme était entièrement fermée et ne lui permettait pas de voir notre personnel. Tout ce qu'elle avait, c'était une petite fente au fond par laquelle nous faisions passer de la nourriture. Chaque semaine, lorsque nous le récupérions pour nos expériences, nous envoyions même du personnel pour nettoyer la pièce et s'assurer qu'il ne décidait pas sur les murs. Bien sûr, nous avons essayé de consulter les images des caméras, mais elles avaient été désactivées pendant son évasion. Il n'y avait rien. Il était juste parti. Quelques heures après l'évasion, j'ai reçu un appel du service informatique. Ils ont passé en revue les anciennes séquences de l'homme en essayant de déterminer s'il y avait un indice pour comprendre ce qui s'était passé. Ils m'ont montré des images de l'homme dans sa cellule et cela ressemblait à la même routine que j'avais vue des milliers de fois auparavant. Il était assis dans le coin le plus éloigné, la tête baissée, attendant en silence son prochain repas ou ses prochaines selles. Dans la vidéo, il y a eu le bruit d'un loquet qui s'ouvre, suivi d'une voix de femme appelant l'homme à souper. Puis une assiette couverte de nourriture a glissé sur le sol. L'homme s'est déplacé, s'est levé pour récupérer l'assiette et... quand il l'a fait, je l'ai vu. Une tapisserie rouge était inscrite sur la chair de son propre corps. Détaillée et complexe, des marques couvrant son estomac qui semblaient avoir été sculptées par le bord d'un ongle. Il a rapidement réajusté sa chemise en prenant soin de la remettre dans sa ceinture. Ma mâchoire s'est effondrée dans un silence stupéfiant. « Pouvez-vous repasser la séquence avec sa chemise relevée ?» j'ai dit doucement. « Prenez un screenshot et zoomez. » Le technicien informatique a hoché la tête et l'a fait. C'est là que tout a pris du sens. Les marques dans la chair de l'homme étaient son plan d'évasion. Ses croquis. Chacun d'entre eux était une gravure immaculée des gardes du complexe. Chacun était une pièce du puzzle. L'un d'entre eux montrait un garde déverrouillant la cellule de l'homme, puis s'enfonçant le crâne dans la lourde porte d'acier. Un autre montrait un garde désactivant les caméras, puis avalant une bouteille de nettoyant pour canalisation. Le dernier croquis était de l'homme que je connaissais, le chef de la garde de nuit. On le voyait tirer et tuer 7 autres membres du personnel de sécurité, puis retourner l'arme contre lui. Il y avait aussi un autre croquis. J'ai reconnu ce visage également, et mon cœur s'est effondré momentanément avant de réaliser que le sujet du croquis était toujours en vie. C'était une secrétaire de nos archives, une jeune femme qui avait tragiquement perdu son bras dans un accident de la route il y a 2 mois. Elle n'avait pas encore repris le travail, mais le dessin l'a montré en train de brûler les archives et toutes les recherches locales que nous avions sur l'homme, avant de se jeter dans les flammes. Dans la chair de l'homme, cependant, elle avait encore 2 bras. C'était probablement ça qui l'avait sauvée. Le dessin comportait une erreur. Mon cerveau a tourné à plein régime, et j'ai réalisé comment l'homme avait fait tout cela. C'était pendant le temps entre les expériences. C'était pendant les promenades que nous faisions vers la salle rouge, pendant qu'il avançait dans les couloirs enchaînés. Il cataloguait des visages, des traits. Il les stockait dans sa mémoire, prenant soin de remarquer les petits détails de leurs emplois du temps. Il avait grandi ici après tout, et passé des années dans le centre. Il a eu beaucoup de temps pour se familiariser. Au début, ma patronne a refusé de le croire. Elle a fait valoir qu'il n'avait jamais indiqué une telle capacité dans les chaînes d'emails dont nous avions extrait sa légende, qu'il avait toujours eu besoin de son bloc-notes rouge, et qu'une fois qu'il l'avait, il avait besoin de la présence de ses sujets pour les dessiner. C'était bien sûr notre erreur d'oublier que... les légendes évoluent. Cette erreur a coûté la vie à des gens. Je le vois dans les reportages. Ils sont faciles à manquer si vous ne savez pas ce que vous cherchez, mais je sais que l'homme est en mouvement et qu'il tue à nouveau. Le centre et le gouvernement refusent de commenter. Ils refusent de dire la vérité sur ce que nous faisons et sur le danger que court le public. Ma patronne est morte il y a 2 jours. Un jour avant ça, un membre de mon équipe de recherche est décédé. Le jour d'avant, 2 autres membres sont morts. Je serais probablement mort moi-même si je ne m'étais pas coupé un doigt. J'ai décidé de prendre les choses en main. Je tire la sonnette d'alarme pour vous, le public. L'homme avec le bloc-notes rouge est dehors. Il est peut-être en train de vous dessiner. Vous ne le verrez peut-être même pas le faire. Peut-être qu'il va même vous dire bonjour en passant. Mais si vous surprenez quelqu'un qui vous regarde avec un peu trop d'attention, ou qui jette un coup d'œil dans votre direction avant de poser son stylo sur le papier, alors il est temps de courir. Et peut-être de laisser un doigt derrière vous, juste au cas où. Et c'est sur cette histoire que nous nous quittons. Si vous souhaitez pouvoir écouter d'autres histoires effrayantes et supporter le podcast, alors abonnez-vous dès maintenant et partagez cet épisode. En attendant de nous revoir dans un prochain épisode, je vous souhaite une bonne soirée et n'oubliez pas, méfiez-vous des ombres.